L'invité du grand entretien du 7-9 est ce matin, le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Yves Verrier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro aujourd'hui. Retour pour commencer évidemment sur la journée de mobilisation d'hier, jeudi 5 décembre. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y avait un peu plus de 800 000 personnes dans les rues en France, dans les différents cortèges. À Bordeaux, Marseille, Nantes, Rennes, j'en passe, 45 000 à Paris. Là aussi, les chiffres ont été un peu compliqués à établir. Les transports en parallèle étaient quasiment à l'arrêt. Il y avait aussi de très nombreux grévistes dans l'éducation nationale. Sur l'ensemble de la France, le mouvement est massif. Gilles Legendre, le patron des députés LREM, s'est dit respectueux de ces chiffres, mais pas impressionné. Ça n'est pas un raz-de-marée, disait-il hier soir à la télévision. Pensez-vous avoir, en tout cas vous, de votre point de vue, remporté une ou la première manche ?
Il fallait marquer un gros coup, j'avais dit cela en perspective du 5, parce que on sait que même réussi, une journée ne suffit pas. Hein, et ce que vous venez de dire, la réflexion de Monsieur Legendre est très claire de ce point de vue. Donc pour nous, ce qui était important, c'était à la fois évidemment le nombre, mais pas seulement, c'est le périmètre. On a beaucoup de manifestants qui se sont associés donc à cette mobilisation, non seulement dans les manifestations, mais dans la grève également, et ça c'est important, et qui viennent du secteur privé, pas seulement des secteurs où c'est plus facile peut-être d'observer une action de grève, hein, dans les petites boîtes du secteur privé, la métallurgie, la restauration collective, la grande distribution. Il y a eu des appels dans la distribution pharmaceutique. J'ai deux exemples de petites fromageries en Dordogne, l'une dans le Jura, l'autre, où la grève a été observée. Des entreprises du secteur de l'aéronautique aussi. Donc, il y a les raffineries qui sont stoppées aujourd'hui. Donc, ça, c'était très important parce que l'adhésion la plus large sera la force de ce mouvement. Et Monsieur Legendre devrait prendre beaucoup plus de précautions dans son analyse.
Considérant l'état de la mobilisation, êtes-vous, Yves Verrier, optimiste pour la suite ? Et si oui, optimiste, ça veut dire quoi pour vous ?
Optimiste parce que justement il y a une adhésion très large, hein, et l'ampleur est quand même, beaucoup de qualificatifs ont été utilisés, je le vois au sein de FO, beaucoup de nos militants n'ont pas la mémoire de grandes mobilisations dans leur ville, là où les manifestations ont eu lieu, là où les grèves se sont produites, les transports urbains sont bloqués dans beaucoup de villes de province, il n'y a pas seulement Paris, donc ça donne déjà cette mesure.
Vous pensez que ça va continuer avec la même ampleur.
Alors, ce qui est important, et d'ailleurs, moi je tiens à saluer celles et ceux qui ont d'ores et déjà reconduit la grève aujourd'hui pour les jours qui viennent, parce que c'est un encouragement important pour ceux pour lesquels c'est plus compliqué dans le secteur privé, dans les petites boîtes, mais qui sont de cœur, j'ai envie de dire, avec la nécessité de se mobiliser, qui s'y associent, qui s'y sont associés, et qui vont peut-être du coup s'y associer à leur tour.
Et maintenant, l'intersyndicale se réunit. Aujourd'hui, vous décider de quoi ? De nouvelles dates de manifestation ?
Alors, ce matin, on a une intersyndicale. Ce qui est très notable aussi, c'est qu'elle s'élargit, puisque c'est très satisfaisant, c'est très bien que la CGC, les cadres, s'y associent cette fois. Hein. Nous étions avec la CGT, la FSU, Solidaires et les organisations étudiantes et de jeunesse. Et maintenant, il y a la CGC. Donc, ça montre qu'il y a une dynamique qui s'enclenche. Ce que nous allons décider, eh bien, je pense qu'il est important que l'on conforte la nécessité que on continue cette mobilisation, mais pas en attendant une prochaine journée. Dès maintenant, il y aura d'ailleurs des manifestations aujourd'hui, il y en a de prévues samedi, il y aura peut-être lundi. En tout cas, ce qui est important, c'est que lundi, la question de la mobilisation soit maintenue, y compris dans la grève. Parce que l'expérience passée nous l'a démontré. Ça ne suffirait pas de se donner quelques rendez-vous comme cela.
Bon, le calendrier de l'exécutif s'affine et vous le savez, Yves Verrier, Jean-Paul Delevoye parlera lundi ou mardi, Édouard Philippe dans la foulée mercredi ou jeudi, afin, pour ce qui le concerne, le Premier ministre de présenter l'architecture de la réforme. Avez-vous en ce moment même des contacts avec le gouvernement ? Est-ce que le dialogue se poursuit ? Si oui, sur quoi ?
Les contacts, on les a, le dialogue, on l'a. Le problème, c'est le contenu du dialogue. Hein. Et
Précisément, vous parlez de quoi ?
Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas d'accord avec le point de départ. C'est le projet du système universel de retraite par points avec un euro cotisé donnera les mêmes droits. Et là, il y a un vrai différend et un vrai désaccord. On l'a expliqué très précisément depuis des semaines et des semaines, y compris à nos interlocuteurs. Nous avons pris part à la concertation jusqu'au mois de juillet. Quasiment, on est sorti au mois de juin parce qu'on commençait à nous dire qu'il allait falloir travailler plus longtemps, donc la donne changeait dans la concertation et le cadre de la concertation qui avait été donné, mais on a expliqué toutes les raisons pour lesquelles nous sommes en désaccord.
Mais là, quand vous dites à Jean-Paul Delevoye on ne veut pas d'un système universel de retraite par points, c'est le préalable à tout, qu'est-ce qu'il vous répond ? Il se fera.
Pour le moment, ils nous répondent, nous, on veut le mettre en place. Alors, moi, ce que je dis, j'avais compris que le « en même temps », c'était on prend les bonnes idées ici et les bonnes idées là, droite, à gauche, comme vous voulez. Là, pour le coup, je ne sais pas qui, mais c'est une très mauvaise idée qui a été donnée au gouvernement, aux candidats à la présidentielle, d'aller vers un système universel par points. Parce que, bien évidemment, quand vous dites, on me dit, c'est un engagement de campagne, c'est un engagement du gouvernement, mais quand vous dites universel, bon, ça sonne bien, c'est plutôt sympathique. Un euro cotisé donnera les mêmes droits. Bah, là aussi, ça a l'air plutôt équitable et juste. Mais qui a vraiment décortiqué ce que ça signifiait ? Il faut bien comprendre, il y a deux aspects majeurs dans cette réforme. C'est le mode d'acquisition des droits à la retraite et là où on calcule en annuité, en trimestre qu'on valide. Quand vous travaillez un mois, vous validez un trimestre aujourd'hui. Demain, vous n'aurez qu'un mois de points achetés. Quand au terme de votre carrière, vous voulez convertir vos droits, ceux auxquels vous avez contribué, on calcule votre retraite sur les 25 meilleures années, les 6 derniers mois dans la fonction publique. Demain, ça sera dépendant. Vous aurez ce capital de points chèrement acquis, durement acquis, et ça dépendra de la valeur de service du point au moment de transformer ces points en pension. Et c'est là le deuxième aspect majeur. Qui va décider ça ? Eh bien, avec un régime unique, c'est l'État qui met la main sur le pilotage du système. C'est inévitable. Et y compris le rapport du haut-commissaire est très précis là-dessus. Donc, c'est ça l'enjeu. Et on voit bien ce qui se passe sur l'assurance chômage. Quand l'État a décidé des mesures qu'il a prises ces derniers mois, c'est 3 milliards d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Demain, ça sera pareil sur les droits à la retraite.
La presse hier et ce matin, Yves Verrier avance les pistes sur lesquelles planche l'exécutif. Par exemple, un report de l'application de la réforme qui ne concernerait plus la génération née en 63, mais plutôt celle née en 73. De ce fait, la réforme entrerait en vigueur en 2035. Comment vous recevez un assouplissement de cette nature par rapport au début de la concertation ?
Bien, évidemment, le gouvernement a compris que son projet ne passait pas, qu'il ne recueillait pas l'assentiment, loin s'en faut. Et la démonstration hier est d'autant plus claire de ce point de vue. Donc, il essaye de trouver des modalités qui permettent d'apaiser à la fois les inquiétudes ou le mécontentement.
Et donc, mais évidemment... ça sonne comment à votre oreille ? Il faut dire quoi ? Oui, c'est bien. Non, on ne veut même pas en parler.
Non, parce que encore une fois, je ne pourrais pas dire bon bah écoutez les gars ou les filles, on a protégé nos droits aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants se débrouilleront le moment venu. Non, ce ne serait pas responsable. Nous sommes une organisation syndicale qui a une longue histoire et qui aura encore une longue histoire. Je ne veux pas que demain les générations futures se retournent en disant mais il faut à lâcher parce qu'ils avaient préservé leurs droits mais ils ne se sont pas préoccupés de nous. On nous a assez dit pour valoriser ou vendre cette réforme, qu'il s'agissait de répondre à l'inquiétude des jeunes qui n'ont pas confiance dans le système actuel. Si c'est pour leur dire, bah les gars, c'est à vous que ça s'appliquera, et pas à nous, franchement, c'est pas la bonne réponse.
Hein. Et sur les situations spécifiques, pénibilité, retraite des femmes, carrière longue, sur le cas particulier des enseignants, le gouvernement dit sur tous ces points que sa porte est largement ouverte, j'aimerais comprendre ce que vous allez faire. Donc vous allez franchir la porte, comment dire, saisir la main tendue ou rester devant ?
On a ouvert une autre porte, parce que ces questions
sont... Il va bien falloir se rencontrer quelque part,
non ? Oui. Revenons à la table de négociation, au point de départ, sans préalable. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que, par exemple, la situation des femmes, c'est un vrai problème. Ce que on ne dit pas assez, d'ailleurs, c'est que l'ADRES, qui est un des organismes statistiques de l'État, fait un rapport chaque année. Et elle démontre que la durée durée d'activité rapportée à la durée de vie. Alors que la durée de vie s'allonge, hein, l'espérance de vie, la durée d'activité globalement s'allonge. Mais c'est essentiellement porté par l'allongement de la durée d'activité des femmes qui travaillent de plus en plus qu'auparavant. Sauf qu'elles sont parties de très loin. Donc effectivement, aujourd'hui, quand elles arrivent à la retraite, elles ont subi plutôt des petits salaires, des interruptions de carrière, du temps partiel subi, et leurs droits ne suffisent pas dans le système actuel. Mais ce serait pas mieux, ce serait même pire dans le système futur. Ce que nous dit le haut commissaire, c'est qu'on va donner des points gratuits pour compenser ces défaillances. Il oublie de dire qu'on le fait déjà dans le système actuel. Ça s'appelle le Fonds de solidarité vieillesse. C'est un problème de financement. Et comment on le finance? Eh bien, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est nous dire, ceux qui ont eu une carrière longue et ascendante, les favorisés du système actuel, nous dit-on, c'est-à-dire ceux qui ont eu un vrai boulot, c'est eux qui vont payer parce qu'ils vont devoir travailler plus.
Quelle est votre intime conviction, Yves Verrier? Est-ce qu'il y aura demain un régime universel à points en France ou pas?
J'espère que non. Qu'on fasse ce qui s'est passé en Suède. En Suède, on a mis un régime universel à points.
Vous pensez que pouvoir faire reculer le gouvernement au point de retirer cette réforme, vraiment?
Oui, parce que j'ai la conviction de la juste raison de notre position. Nous avons analysé précisément, nous connaissons bien à FO la sécurité sociale, nous en sommes partie prenante depuis ses origines, nous l'avons négocié, nous l'avons fait évoluer, et donc nous savons de quoi nous parlons. Nous n'avons jamais été contredits sur les arguments que nous avons opposés au gouvernement.
Nombreux auditeurs de France Inter au standard pour échanger avec vous. Une dernière question sur l'aspect paramétrique de la réforme, c'est-à-dire résorber les déficits des régimes de retraite d'ici 2025 en instaurant par exemple un âge pivot. Il semblerait que le sujet soit transmis à la structure nouvelle qui pourrait être créée pour gérer le futur régime de retraite. La CFDT s'en réjouirait. Si le gouvernement renonce, Yves Verrier, aux mesures d'économie ou s'il les reporte, est-ce de nature à vous satisfaire?
Non, parce que, encore une fois, si vous lisez le rapport du haut commissaire, il dit très précisément que le cadre du pilotage financier du système sera défini par les lois de finances proposées par le gouvernement et adoptées par le gouvernement. La seule chose qu'on nous demandera de faire, eh bien, c'est d'aller ajuster les réglages du système, la valeur du point à l'achat, la valeur de service éventuellement, l'âge pivot qui ferait qu'on serait pénalisé ou non. Alors la CFDT s'en ravit peut-être parce que malheureusement elle avait signé à l'Agirc-Arrco un accord en 2015 qui instaurait des coefficients de solidarité qui étaient déjà les prémices de cet âge pivot. Nous n'étions pas d'accord avec cela, nous n'avons pas changé pour ce qui nous concerne.
Et le fait que c'est Gérald Darmanin qui le disait hier soir, cet aspect paramétrique de la réforme soit reculé, qu'il n'y ait pas d'urgence, ça non plus, ça vous semble, vous ne le prenez pas en compte?
Mais ça, ce sont encore des leurres, des arguments un peu de communication. Le Conseil d'orientation des retraites disait lui-même que le déséquilibre des 8 à 17 milliards à horizon 2030 n'était pas celui d'une dérive des dépenses, mais un manque de ressources dû aux politiques de modération de la dépense publique, c'est-à-dire à la suppression d'emplois dans la fonction publique et à la contrainte qui pèse sur les salaires des fonctionnaires qui ne sont pas augmentés depuis près de 10 ans.
Allez, on file au standard de France Inter. Salut, depuis Bordeaux, Francis qui nous appelle. Bonjour Francis.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci, bonjour Monsieur Verrier. Moi j'ai une question de fond. Le candidat Macron, dans son programme, a proposé une réforme, une vraie réforme des retraites. Sitôt élu, il a mis en place un haut commissaire qui a négocié pendant 18 mois. Je m'étonne que maintenant, donc au bout de presque 2 ans, vous êtes contre cette réforme de façon sur le principe, alors que les électeurs l'ont validé en élisant un président.
Merci Francis pour cette question. Yves Verrier vous répond.
Je ne suis pas sûr que les électeurs, Francis, avaient bien compris ce que signifiait un système universel par points, même avec la formule célèbre du 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, parce que nous avons justement, nous, décliné ce que ça signifiait en conséquence, ce que je viens d'expliquer. Je signale au passage...
Il y a un argument fort que développe Francis. C'est un élément de la campagne présidentielle.
Oui, oui.
Il y a eu un vote, il y a eu des législatives, tout était sur la table, il y a eu de la concertation, vous n'avez pas quitté la table de la concertation, donc pourquoi maintenant vous réveillez contre ?
Ah non, non, on a dit dès le départ que nous étions contre. Nous sommes entrés dans la concertation avec l'objectif d'expliquer les raisons pour lesquelles nous étions contre. Nous avons décliné sur chacun des aspects, y compris sur la question de la gouvernance. Nous venons de remettre au gouvernement un document en 3 pages qui explique précisément les raisons pour lesquelles, y compris sur la question de la gouvernance, nous ne sommes pas d'accord.
Mais ce que je voulais dire... Mais le gouvernement n'est-il pas légitimement, démocratiquement, n'a-t-il pas reçu validation de la part des Français ? C'est ça la question de notre auditeur.
La promesse de campagne était aussi que cette réforme ne devait pas conduire à faire de nouvelles économies ni à toucher à l'âge de départ à la retraite. Or, ces derniers temps, nous ne parlons plus que de ça. Et par ailleurs, il y avait un autre engagement de campagne qui était de faire que le travail paie. Or, aujourd'hui, ceux que l'on veut mettre à contribution justement pour financer le régime, ce sont les carrières longues et ascendantes, ce que disait le haut-commissaire, c'est-à-dire celles et ceux qui ont pu bénéficier d'un travail dès l'entrée dans leur vie active, jusqu'au moment de la retraite. Longue et ascendante, ça ne veut pas dire que vous terminez à 10 000 euros. Hein. Vous êtes démarré au SMIC et vous arrivez à 1,5 le SMIC. Ça ne fait pas des 1 000 et des 100 à l'arrivée. Et ceux-là, on va les mettre à contribution. Autrement dit, là où on nous disait on va faire en sorte que le travail paie, eh bien on va faire payer ceux qui ont travaillé.
À quelle vitesse faut-il éteindre les régimes spéciaux, Yves Verrier ?
Les régimes spéciaux, puisqu'on parle beaucoup de la clause du grand-père, il faut avoir en tête qu'on a déjà mis en œuvre les gouvernements ont déjà mis en œuvre cette clause du grand-père sur l'allongement de la durée de cotisation. Tous les régimes seront alignés sur les mêmes durées de cotisation, les 43 ans à partir de la génération 73 qui s'appliqueront dans le cadre de la dernière réforme de 2014, s'appliqueront que vous soyez cheminot, électricien gazier, RATP, fonctionnaire ou du secteur privé.
Donc ils vont s'éteindre tout seuls les régimes spéciaux ou pas ?
Mais de fait, si vous avez toujours un droit de partir à 55 ans, mais qu'il vous faut 43 ans demain de durée de cotisation, et on le constate déjà, ça a déjà reculé de 2 ans l'âge effectif de départ à la retraite dans les régimes spéciaux, et progressivement ça va s'aligner, comme ce qui s'est passé dans la fonction publique qui a été alignée sur le secteur privé. Alors, je ne vais pas m'en féliciter, puisque je dois reconnaître que nous n'étions pas d'accord à l'époque, nos syndicats n'étaient pas d'accord avec cela, mais c'est un fait.
Jean-Michel est au standard et en ligne avec nous. Bonjour et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Compte tenu de la pyramide des âges et de l'allongement de la vie, que ferez-vous lorsque le système sera en faillite et qu'on ne pourra plus assurer le versement des retraites, sauf à les réduire drastiquement ?
Merci Jean-Michel pour cette question. Yves Verrier vous répond.
En l'occurrence, le système actuel ou le système par points n'y change rien à cette question de l'équilibre lié à l'allongement de l'espérance de vie. Il y a 2 aspects dans cette question. Premièrement, si la durée de vie s'allonge, c'est parce qu'on n'est plus obligé de travailler jusqu'au bout, de s'épuiser jusqu'au bout. Ça, c'est un des facteurs qui a été d'ailleurs relevé par la Cour des comptes lorsqu'elle a examiné les effets des carrières longues et où elle note qu'il y a sans doute un effet de la possibilité de partir plus tôt à la retraite quand on a démarré très tôt son activité sur l'espérance de vie des populations concernées. Deuxièmement, la question de l'équilibre. Le Conseil d'orientation des retraites au mois de juin, dans son rapport annuel, expliquait que, avec les diverses projections qu'il faisait, qu'à partir de 2030, la pyramide des âges fait que, avec les dispositions actuelles, l'équilibre se rétablira progressivement. Alors évidemment, le gouvernement il a redemandé un rapport au Conseil d'orientation des retraites, mais en lui demandant de s'arrêter à 2030, comme par hasard au moment où le Conseil d'orientation des retraites nous dit que ça va repartir dans le bon sens, parce que c'est un effet de la démographie. N'oublions pas que la question, elle est effectivement celle de la ressource. 1% de cotisation suffirait à rétablir l'équilibre. On a 140 milliards d'euros chaque année d'aide publique aux entreprises. C'est la moitié de ce que représentent les prestations retraites. Ça se discute peut-être aussi.
On retourne au standard. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Monsieur Verrier.
Bonjour.
D'abord une petite remarque et puis ensuite une question. Contrairement à la bienveillance qui a prévalu à la mise en place de notre système de retraite actuel, à la sortie de la guerre, tous ceux qui en France sont observateurs de ce projet de loi comprennent qu'il s'agit désormais de transférer ces 370 milliards de retraites, de pensions, vers des fonds de pension privés, de cette économie de casino dont notre président est le croupier en chef. Cela dit, Vous avez la chance de vous adresser, Monsieur Verrier, à la première radio de France, que nous apprécions tous beaucoup.
Moi aussi.
Donc vous avez le plus grand audimat possible à cette heure-ci ce matin. Qu'est-ce que vous conseillez à tous les salariés du privé qui, si eux, ils faisaient la grève comme tous les fonctionnaires ou tous les salariés des grandes entreprises qui ont des syndicats pour les protéger, qu'est-ce que vous conseillez à tous ces gens qui sont de tout cœur avec vous, qui comprennent exactement à quel tonte ils vont être soumises d'ici quelques temps si cette loi passe? Qu'est-ce que vous leur conseillez pour être solidaires avec vous, pour vous aider, pour accompagner ce mouvement de protestation?
Bien compris, merci Jean-François. Beaucoup de choses dans cette question. Yves Verrier commence par vous répondre sur que conseillez-vous aux salariés du privé.
Ben on va avoir une réunion de l'intersyndicale ce matin, donc on va inviter à poursuivre, à renforcer, à élargir. Le plus nombreux on sera tout de suite dans les jours qui viennent, et y compris par la grève. Je sais que c'est difficile d'observer des mouvements de grève dans le secteur privé parce que votre patron n'est pas votre interlocuteur sur le dossier de la retraite. Donc on comprend bien que c'est plus compliqué dans la fonction publique. C'est le même. Le gouvernement est à la fois votre employeur et celui qui est donneur d'ordre sur la retraite. Mais il faut une solidarité public, privé, la plus large possible, comme nous l'avons démontré hier, qu'elle se confirme aujourd'hui, demain, lundi. C'est ce qui fera que très vite, plus vite, on obtiendra que l'on n'en revienne à la sagesse, comme je le dis. Je ne souhaite pas mettre un genou à terre, ni faire mettre un genou à terre à qui que ce soit. Revenons à la table, examinons les différentes options. Nous avons proposé, nous, des revendications très précises qui permettraient d'améliorer le système actuel et de l'équilibrer.
Alors, Jean-François semblait persuadé que nous allions vers un système de retraite par capitalisation, puisqu'il disait que l'ensemble des sommes consacrées au système, selon lui, seraient transférées à des fonds de pension. Est-ce que vous pouvez lui répondre factuellement? Le gouvernement l'a dit et redit, la répartition est préservée. Que répondez-vous à notre auditeur sur ce point?
À ce stade, le système par points est un système par répartition. Mais il y a eu beaucoup de bêtises, de dites sur la question des très hauts salaires, au-dessus des trois plafonds de sécurité sociale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les salariés, alors c'est souvent plutôt des chefs d'entreprise, en l'occurrence c'est 250 000 la population concernée, au-dessus de trois plafonds de sécurité sociale, cotisent à l'AGIRC ARCO, c'est-à-dire la retraite complémentaire pour les cadres, jusqu'à 8 plafonds. Et effectivement, ça complète leur droit à la retraite le moment venu à la hauteur de leur cotisation. Ils bénéficient d'une meilleure retraite qui tient compte de ces très hautes rémunérations. Cela va être supprimé avec le régime par points. Ils ne cotiseront plus que sur la partie
semblerait
de solidarité.
Semblerait que ça négocie beaucoup. Alors, là, à lire les échos ce matin. En
à
tout
ce
cas.
Stade, ils ne cotiseraient plus que les 2,5% qui ne leur rapporteraient rien en termes de retraite et qui abonderaient les moyens de la solidarité, par exemple pour compenser les périodes d'interruption de carrière, etc. Et bien évidemment, ils seront pénalisés sur le niveau de retraite qu'il sera le leur le moment venu, puisqu'ils ne cotiseront plus sur du contributif pour améliorer leur droit à la retraite. Et là, on voit déjà, j'ai vu passer quelques articles dans la presse économique, les assurances s'intéressaient à la question, et les entreprises également, et qui pourraient déboucher sur la mise en place de fonds par capitalisation pour cette population.
On retourne au standard. C'est Nadine qui est avec nous désormais. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour France Inter. Merci de prendre en considération mon intervention.
Je vous en prie.
Voilà. Et merci pour vos émissions qui sont passionnantes.
Merci.
Je voudrais vous demander, cher monsieur, nous sommes en pays de France, le pays de la liberté. Nous avons le droit de manifester. Mais je trouve insupportable vraiment toutes ces images qu'on nous passe à la télévision et tout ce que l'on entend par rapport à la violence lors des manifestations. Comme je vous disais à vos collègues, est-ce que toutes ces personnes qui cassent en permanence voudraient qu'on aille chez elles, qu'on casse chez elles, qu'on casse leur voiture, qu'on brûle tout ça, et qu'ils se permettent de le faire chez les autres? Je trouve qu'on a le droit de manifester, on a le droit de faire crève, il n'y a pas de problème. Mais de casser comme ça, c'est vraiment insupportable, vraiment insupportable.
Merci, merci.
Je trouve qu'on ne prend pas assez en considération la révolte des champs à ce niveau-là.
Merci beaucoup Nadine pour cette question. Yves Verrier, il y a eu effectivement un certain nombre de violences Valence hier dans le cortège, en marche du cortège vers la place de la République, puis un peu plus tard au moment de la dispersion à Nation. Le cortège a été coupé en deux, il a pris du retard. Comment répondez-vous à Nadine et quelle est votre appréciation du maintien de l'ordre dans la capitale hier?
Premièrement, nous avions très clairement appelé à manifester nombreux, mais dans le calme, la détermination, mais dans le calme. Les violences n'ont rien à voir avec les manifestations syndicales. Elles ont plutôt eu pour effet, dans toute l'histoire, de se retourner contre les salariés et les manifestations, et en particulier les revendications portées par les manifestants. Parce que, comme vous le dites à l'instant, madame, on détourne l'attention, d'une part, de ce que portaient les revendications, pour tourner, alors a fortiori avec les chaînes d'information continue en boucle, sur ces images de violence, mais ces violences sont inadmissibles, elles ne sont pas le fait des manifestants, et je ne peux pas me satisfaire, parce qu'il y en a quand même eu hier, mais ce dont je peux me féliciter, c'est que les organisations syndicales ont fait la démonstration que nous étions capables d'organiser des manifestations très 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 nombreuses, sans commune mesure avec ce qu'on a connu dans les mois précédent, avec un contrôle. Oui, absolument. C'était très important parce que nous sommes très attachés à la démocratie. Force ouvrière est très attachée à la démocratie, à la démocratie représentative et à la République.
Vous aviez été définitivement sorti du paysage par les Gilets jaunes. Ça, c'était un deuxième ouf de votre part.
Non,
on est capable
non,
encore de faire les choses à l'ancienne.
Non. La question, elle n'est pas celle-là. La question, elle est vraiment celle du dossier des retraites.
Merci beaucoup, Yves Verrier, secrétaire général du syndicat Force Ouvrière, d'avoir été au micro d'Inter ce matin.
Merci à vous.